Plus de 48 heures après cette nuit ensanglantée dans la capitale française, quel est l'état de l'enquête ?
Durant toute la matinée, une vaste opération de police a eu lieu à Molenbeek en Belgique. Tout un quartier de cette commune connue pour abriter plusieurs mosquées radicales a été bloqué, mais sans succès.
Nouveaux affrontements au Burundi, au moins 6 morts ont été enregistrés cette nuit à Bujumbura.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Attentat de Paris. Dans un discours devant le Parlement français, réuni en congrès à Versailles, le président François Hollande a annoncé aujourd'hui qu'il rencontrerait dans les prochains jours ses homologues américains et russes, Barack Obama et Vladimir Poutine, pour essayer de parvenir à une grande et unique coalition contre le groupe État islamique en Syrie. Il a aussi fait part de son intention de demander au Conseil de sécurité de l'ONU de se réunir pour adopter une résolution marquant la volonté commune de lutter contre le terrorisme. Le leader français a réitéré la détermination de la France de combattre les auteurs des attaques qui ont fait 129 morts et plus de 350 blessés dans la région parisienne. Un extrait des propos de François Hollande.
Les terroristes croient que les peuples libres se laisseraient impressionner par l'horreur. Il n'en est rien. Et la République française a surmonté bien d'autres épreuves. Elle est toujours là, bien vivante. Et ceux qui ont entendu la défier ont toujours été les perdants de l'histoire. Il en sera de même cette fois-ci encore. Le peuple français est un peuple ardent, vaillant, courageux, qui ne se résigne pas et qui se met debout chaque fois qu'un de ses enfants est à terre. Ceux qui ont voulu le meurtrir en frappant délibérément des innocents sont des lâches qui ont tiré sur une foule désarmée, si bien que nous ne sommes pas engagés dans une guerre de civilisation, parce que ces assassins n'en représentent aucune. Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme djihadiste qui menace le monde entier, et pas seulement la France.
Voilà, c'était le président François Hollande à Versailles.
Depuis le G20 à Antalya en Turquie, le président Barack Obama est aussi longuement revenu sur ses attaques de Paris. Le président américain a regretté que ces attentats constituent un retour en arrière dans la lutte contre le groupe État islamique. Nicolas Pinault.
Malgré l'intensification des frappes aériennes contre le groupe en Syrie, Barack Obama exclut de nouveau l'envoi de troupes dans le pays. Le locataire de la Maison-Blanche a répété que les États-Unis n'enverraient pas de troupes au sol pour combattre directement le groupe État islamique, que ce soit en Irak ou en Syrie. Ce n'est pas juste ma vision, mais celle de mes plus proches conseillers militaires et civils. Cela serait une erreur, a déclaré Barack Obama. Il y aura une intensification de la stratégie que nous avons mise en œuvre, mais la stratégie que nous avons dégagée finira par atteindre ses objectifs, a réassuré Barack Obama lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet du G20 en Turquie. Mais il faudra du temps, a-t-il reconnu. Un nouvel accord a aussi été annoncé pour renforcer le partage de renseignements et d'informations militaires avec la France. Barack Obama assure que Washington n'avait aucune indication spécifique sur une possible attaque en France.
Plus de 48 heures après les attentats de Paris, les autorités françaises sont déjà en mesure de révéler des informations précises et importantes pour la suite de l'enquête. Depuis la capitale française, notre correspondant Christian Panzou fait le point.
5 des 7 kamikazes ont été formellement identifiés par la police scientifique. 3 d'entre eux sont français. Les enquêteurs sont dans l'attente de plusieurs informations concernant le 4e djihadiste identifié, puisqu'un passeport syrien a été retrouvé près de sa dépouille au Stade de France. Le 5e djihadiste identifié est belge. Il s'agit de Salah Abdeslam. Il serait un des artificiers du groupe et aurait loué une des voitures. Il est toujours en fuite. Les services de police français et belges travaillent d'arrache-pied pour retrouver sa trace. Durant toute la matinée, une vaste opération de police a eu lieu à Molenbeek en Belgique. Tout un quartier de cette commune connue pour abriter plusieurs mosquées radicales a été bloqué, mais sans succès. Salah Abdeslam n'a toujours pas été retrouvé. En ce moment même, la police néerlandaise mène également une opération de grande envergure pour interpeller un homme caché dans une grange à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. En France, plus de 160 perquisitions ont eu lieu dans 19 départements, à Grenoble, Lyon, Strasbourg ou Lille. De nombreuses arrestations, pas forcément en rapport direct avec les attentats de vendredi, mais un véritable coup de filet dans les milieux radicaux de l'Hexagone. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Suite aux attentats de Paris, tous les concerts ont été annulés. Les plus grands noms de la musique africaine étaient dans la capitale française pour célébrer l'année de la musique africaine. Nathalie Barge a joint Kadi Kouyaté du groupe Les Ambassadeurs de Cheikh Tidiane Seck.
Il y a beaucoup de concerts qui ont été annulés. Donc on devait jouer à Paris avec Cheikh Tidiane dans son groupe, mais malheureusement avec tout ce qui s'est passé, tout a été annulé.
Et Cheikh Tidiane Seck, il est parti, il m'a dit qu'il était à Abu Dhabi.
Oui, tout à fait. Comme le concert a été annulé, il y avait d'autres projets qui étaient là-bas. Après ça, il va venir puisqu'on a un concert à 150 km de Paris d'ici la fin du mois, le 28. D'ici là, ça trouvera que peut-être il y a certains plans visite pirate est enlevé. Cette affaire-là est venue à un moment où on devrait découvrir un autre côté de la musique africaine. Les ambassadeurs devaient se produire encore au Philharmonie. Il y avait beaucoup d'activités. Quand c'est venu, c'était vraiment fiasco. Tout le monde est en colère. Pourquoi? On se pose la question. Mais bon, il n'y a pas de travail. Le pays s'arrête. Donc, ça infecte à tout le monde.
Kadi Kouyaté, musicien malien, joint à Paris.
Daesh menace de lancer à Washington D.C. une attaque semblable à celle du vendredi 13 à Paris. Dans une vidéo publiée sur les médias sociaux, l'organisation djihadiste menace de représailles tous les pays prenant part aux opérations militaires en Syrie et en Irak. Aucun commentaire de la part des dirigeants américains. La VOA n'a pas pu confirmer l'authenticité de la vidéo.
Le réseau Anonymous se prépare à déclencher des vagues de cyberattaques contre le groupe État islamique après les attentats de vendredi soir à Paris. Dans une vidéo non vérifiée postée sur YouTube, un porte-parole du groupe a déclaré que le groupe international utiliserait son expertise pour faire la guerre aux militants qui ont revendiqué la responsabilité de ces attentats. Nous vous rappelons que les attentats de Paris ont fait au moins 129 morts et plus de 350 blessés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, affrontement à Bujumbura entre la police et des hommes armés. Au moins 6 personnes ont été tuées, dont un policier dans la capitale burundaise. Des bombardements étaient entendus ce matin à Kamenge, au nord de Bujumbura, et à Buyenzi. La police a procédé à des fouilles et des perquisitions dans le quartier de Ngagara. Ces violences interviennent alors que les opérations de désarmement sont en cours dans la capitale. Reportage de Christophe Kourounziza.
Dans de nombreux quartiers de la capitale Bujumbura, la nuit de dimanche en lundi était cauchemardesque après des journées d'accalmie relative. Dans les quartiers de Biza, la police affirme qu'elle a tué 3 criminels armés et blessé 2 autres. Mais des témoignages de la population parlent d'un cadavre découvert à la 5e avenue et un autre à Moussaga, ce qui porte à 6 le nombre de personnes tuées dimanche soir. Le porte-parole de la police reconnaît qu'un policier a été tué à Kanyosha, au sud de la capitale, lors d'échanges intenses entre des policiers et des personnes armées. Un autre policier a été blessé au cours de cette attaque. Même la maison du maire de la ville qui se trouve dans le quartier de Roero au centre de la capitale a été attaquée par des criminels armés selon le porte-parole Pierre Mourouquier. La maison du maire a été endommagée. Ce lundi matin, des grenades ont été lancées également à la gare du Nord dans le quartier de Kameng et au chef-lieu de la même commune. 5 personnes dont 3 policiers ont été blessés. Jeudi dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait voté une résolution appelant au dialogue inclusif. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA.
Sachez aussi que l'Union européenne envisage de nouvelles sanctions contre des responsables burundais impliqués dans les violences.
Lutte contre le djihadisme au Nigeria. L'armée affirme avoir déjoué un projet d'attentat à l'arme lourde et aux bombes artisanales préparé par Boko Haram dans la ville de Maïdougouri dans le nord-est. 9 terroristes se sont introduits dans Maïdougouri armés de fusils d'assaut dans un véhicule transportant 20 bombes artisanales qui devaient exploser dans plusieurs endroits de la ville, précise l'armée. Par ailleurs, l'ONU indique que l'organisation islamiste Boko Haram a détruit quelques 1100 écoles cette année au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigeria.
Présidentiel au Niger, un ex-ministre de la communication, Kassoum Mokhtar, a été investi candidat au scrutin de 2016. C'est ce qu'indique son parti Convergence pour la République. Son investiture porte à 5 le nombre de candidats officiellement déclarés à la présidentielle du 21 février 2016.
RDC, l'ex-chef de milice congolais Germain Katanga, condamné et détenu par la Cour pénale internationale à La Haye, veut revenir dans son pays après sa libération en janvier. D'après le bureau de la CPI à Kinshasa, Germain Katanga souhaite devenir agriculteur en Ituri.
Et Somalie, au moins 7 personnes ont été tuées et 12 blessées lors d'échanges de tirs entre policiers et militaires lors d'une distribution de nourriture près d'un camp de déplacés dans les environs de Mogadiscio. Information rapportée par l'AFP.
Des soldats israéliens ont abattu au moins 2 Palestiniens suite à des affrontements qui ont éclaté lorsque l'armée a tenté de détruire la résidence d'un présumé assaillant en Cisjordanie occupée. Selon l'armée, des centaines de Palestiniens ont lancé des pierres et des cocktails Molotov contre les forces de sécurité qui ont réagi par des tirs. Le gouvernement Netanyahou a décidé de détruire les maisons de tout Palestinien soupçonné d'implication dans les actes de violence en Israël. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est La Minute Éco avec Nathalie Barche.
À l'ouverture à Dakar d'un forum sur l'emploi des jeunes en milieu rural, le directeur général de l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes, Mamadou Lamine Diang, a invité la jeunesse sénégalaise à se tourner vers l'agriculture. La rencontre marque le lancement de l'édition 2015 de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Le plan Sénégal émergent constitue une véritable révolution économique par le biais d'une agriculture moderne, motorisée où le génie créateur de la jeunesse sénégalaise excelle en s'y installant de manière durable, a déclaré ce lundi M. Diang. Une délégation marocaine d'une centaine d'hommes d'affaires participera au Forum international des investissements du 18 au 22 novembre en République du Congo. Quelques 130 entreprises marocaines et fédérations professionnelles vont ainsi renforcer l'axe d'affaires Casablanca-Brazzaville. Placé sous le thème « Investir au Congo », ICB 2015 s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Plan national de développement 2012-2020. Et les porteurs de projets africains ont été invités à la réunion annuelle de l'investissement de Dubaï du 11 au 13 avril prochain. L'AIM est une rencontre vouée à explorer de nouvelles opportunités d'affaires. Le Burkina Faso, qui est invité, présentera des projets notamment dans les secteurs du transport, de l'agro-industrie, de l'énergie et des mines.
La Minute Éco, merci Nathalie.
Les sports avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Éliminatoire Russie 2018, et quelques équipes sont déjà qualifiées pour le troisième et dernier tour.
Oui, on commence par le Maroc hein, qui s'est qualifié hier dimanche malgré sa défaite en Guinée équatoriale 1-0 lors du match retour du deuxième tour. Il faut dire que les Lions de l'Atlas l'avaient emporté à l'aller 2-0 à domicile à Agadir. La Zambie est également qualifiée. La Zambie qui s'est imposée chez elle à Ndola 2-0 face au Soudan. Un Soudan déjà défait à l'aller 1-0. Qualification également de nos amis de la RDC aux dépens du Burundi à Bujumbura. Les Léopards avaient gagné 3-2 avant de concéder hier le nul 2-2 à Kinshasa. L'Ouganda, facile vainqueur du Togo, 3-0, est également qualifié. La Guinée, tombeuse de la Namibie, 2-0, s'est qualifiée, car la Guinée l'avait emporté également 1-0 à l'aller. Le Gabon s'est qualifié 1-0 face au Mozambique. Les équipes qualifiées chez Rubin pour le troisième et dernier tour seront versées dans 5 groupes de 4 pays. Les 5 vainqueurs de groupe se qualifieront pour la phase finale de Russie 2018.
Tirage au sort du CHAN 2016.
Oui, le Rwanda, pays hôte de ce championnat d'Afrique des Nations 2016, a été placé dans le groupe de la mort aux côtés de la Côte d'Ivoire et du Maroc lors du tirage au sort donc hier à Kigali. Le Maroc a réussi à se qualifier pour le champ en battant 2 fois la Libye, tenante du titre et absente cette année de la compétition, ainsi que la Tunisie à l'extérieur. La Côte d'Ivoire a de son côté écarté le Ghana, finaliste des éditions 2009 et 2014. Le Nigeria, troisième l'année dernière, se retrouve dans le groupe du Niger, de la Guinée et de la Tunisie, vainqueur en 2011.
À rappeler que le CHAN se joue tous les 2 ans et seuls les joueurs évoluant dans un club de leur pays peuvent y participer. Merci Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bon, Morgane Guériac et Chérubin Dorsil en votre compagnie au Studio 13 à Washington. Place au dossier du jour.
À Paris, au lendemain des attentats du 13 novembre, l'heure est au bilan et à l'analyse. Pourquoi les terroristes ont-ils choisi ces quartiers passants, populaires ? Réponse du politologue et sociologue français Vincent Gesser, contacté par Anastasie Tudiech.
Là, je pense que Paris, c'est clair que c'est parce que c'est le symbole de la capitale d'un pays qui est aujourd'hui fortement engagé dans le conflit syrien, et notamment fortement engagé au sens, je dirais, matériel, au sens militaire, mais aussi au sens symbolique, puisque la France a le discours le plus récurrent, le plus affirmé de lutte contre Daesh. On peut dire même qu'elle a un discours beaucoup plus affirmé que la plupart des autres puissances occidentales. Alors ensuite, pourquoi les quartiers passants ?
Oui.
C'est la politique de la terreur. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a pu observer dans l'histoire du terrorisme, qui sont des cibles souvent politiques et symboliques, tirer comme ça sur toutes sortes de personnes, c'est-à-dire des lambdas, des citoyens anonymes, c'est une volonté d'entretenir de manière permanente un climat de peur.
Ces terroristes sont français, enfin, une partie d'entre eux l'est en tout cas, avec un passeport français né en France, comme l'étaient les frères Kouachi et Amédi Coulibaly. La France est-elle devenue un vivier pour Daesh ?
Je pense que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de pays sont devenus des viviers. Elle est un vivier. Pourquoi ? Parce que la France, effectivement, alors là, il ne faut surtout pas rentrer dans des explications, je dirais, très complexes. Hein. Il y a une population musulmane qui est importante. Alors ça ne veut pas dire que ce soit les musulmans pratiquants, etc. Mais les groupes terroristes jouent sur un certain malaise identitaire, islamisent très rapidement un certain nombre de personnes. Et donc, du coup, effectivement, la France, mais pas seulement la France, on voit aussi la Tunisie, l'Égypte, la plupart des pays arabes et les pays, effectivement, où il y a aujourd'hui, on va dire, une dimension arabo-musulmane. Mais, avec une très grande nuance et avec beaucoup de prudence, ce sont rarement des musulmans impliqués dans les associations musulmanes, les mosquées, oui, que j'appellerais les acteurs de cet islam de France, qui sont à l'origine à la fois de ces attentats et qui sont les exécutants. Et d'ailleurs, on le dit toujours, c'est quand les jeunes disparaissent des mosquées qu'on est souvent inquiet. Ce n'est pas quand ils sont dans les mosquées que finalement ils sont recrutés, c'est plutôt quand ils en sortent.
Paris a commencé des frappes aériennes en Syrie dimanche, on le sait. Des bombardements suffiront-ils pour venir à bout de Daesh ?
Écoutez, non, moi je pense pas. Plus on frappe Daesh, plus on risque d'avoir les effets collatéraux catastrophiques dans l'espace public français et donc dans cette quasi-impossibilité de sécuriser à 100% l'espace public français, le territoire français aujourd'hui.
Le politologue et sociologue français Vincent Gesser.
Cameroun menacé par le paludisme, souvent présenté comme la première cause de mortalité dans ce pays. Malgré la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés, 60% des maladies dans la région de l'extrême nord souffrent du palu. Il faut dire que les Camerounais sont nombreux à utiliser ces moustiquaires pour diverses raisons. De Yaoundé, le reportage de Moki Edwin Kinzeka.
Le paludisme est la pathologie la plus récurrente ici au centre de santé de Mvogada à Yaoundé. Henry Aïna est arrivé dans un état comateux.
Je ne sais même pas comment ils sont arrivés ici à l'hôpital. Après avoir fait tous les examens, on nous a fait comprendre qu'ils souffraient d'un palu. Et moi, voici actuellement sur une perfusion. Ils m'ont fait comprendre que j'en ai comme ça pour toute la journée. Moi, je n'ai pas de moustiquaire imprégné chez moi. J'ai appris quand même qu'on distribuait, mais moi, ils ne sont pas encore arrivés pour me donner ma part.
Des sources officielles, le nombre de personnes souffrant du paludisme a triplé dans la région de l'extrême nord, soit 60% des malades consultés dans des hôpitaux. Une situation qui contraste avec la campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés. Sylvie Akaba, une habitante de Yaoundé, est hostile aux moustiquaires imprégnés.
Je n'utilise pas le moustiquaire imprimé chez moi parce que c'est étouffe. Moi, je ne peux pas dormir dedans. Quand je suis à l'intérieur, c'est comme si j'étais dans un cercueil. Je préfère utiliser les insecticides ou alors le Montaigre. C'est encore mieux que d'entrer dans une moustiquaire, franchement.
Cette attitude se situe aux antipodes du discours gouvernemental. André Mamafouda, ministre camerounais de la Santé publique.
Avoir la milda, c'est très bien, mais il faut surtout l'utiliser. Quand vous rentrez, vous enlevez celle-là. Vous suspendez celle-ci à la véranda pendant une nuit entière et le lendemain, vous allez la placer. Et vous avez compris que vous pouvez la laver et utiliser le savon de Macabo comme on appelait avant.
La plupart des populations vivent dans les bidonvilles réputées pour leur promiscuité avancée. Ce que fait dire à Jean Mandata que la solution du paludisme n'est pas uniquement dans l'usage des moustiquaires imprégnés.
Je pense que l'État, en dehors des moustiquaires imprégnés, là, ils peuvent aussi rendre la ville propre, l'entourage aussi. Parce qu'on a remarqué que dans nos quartiers, il y a des flaques d'eau et autres qui produisent le paludisme. Je pense que pour cela, l'État devrait aussi prendre beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'attention aussi pour pouvoir bien aménager des quartiers de part et d'autre.
Le paludisme continue de faire des victimes. Certaines formations hospitalières ne réussissent pas à contenir tous les patients qui se retrouvent parfois allongés sur les nattes. Chaque année, le paludisme à lui seul représente 40% des motifs de consultation dans les hôpitaux au Cameroun. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Et nous partons maintenant en Guinée pour parler de Fripp. De nouveaux diplômés font de la vente d'habits de seconde main importés d'Europe leur gagne-pain. Confrontés aux difficultés de trouver leur premier emploi, ces jeunes passent leur quotidien dans le grand marché de Conakry. Correspondance de Zakaria Camara.
Diplômé, je suis de la 47e promotion de l'économie et de gestion de l'université générale dans le compte de Symphonia.
Diplômé de l'université de l'Hôtellerie de Fula Madina.
En ce moment, les Mohamed font partie des diplômés sans emploi qui vendent à Madina Bordeaux.
Il y a beaucoup de jeunes ici qui sont diplômés, ils ont fini l'université. Donc, au lieu de rester à la maison, ils préfèrent venir ici d'abord pour chercher leur survie. Quoi.
Je ne dépends plus de la famille. Je dépends de moi-même. Je me suis marié, je me débrouille avec ça, je prends soin de la famille.
Au moins 150 jeunes sortis des universités de Guinée exercent ici la vente de vêtements d'occasion. Oudaouda est l'un d'eux, au milieu d'une dizaine d'autres, tous autour d'un ballot de friperie nouvellement ouvert, il explique son activité.
Nous sommes catégorisés ici. Il y a des trières, il y a des déballeurs, il y a des retrières, il y a des trières. Donc c'est catégorisé. Donc c'est des spécialités. Moi, j'aime retrier. Après avoir trié, je viens, moi, je retrie dedans, j'envoie ça à ma place pour revendre.
Alors que Daouda retrie les vêtements, un bordelais, c'est ainsi qu'on les appelle, nous indique la boutique de Mamadi, le doyen. Ça fait plus de 20 ans qu'il vend des pantalons et chemises pour élèves.
Ici, moi, je vends des bleus blancs. Ça fait 20 ans que je suis dans les friperies. Tous les élèves, ils me connaissent. Son parent aussi. J'ai aidé beaucoup les élèves. J'ai conseillé dans l'affaire là.
Bordeaux, un espace long d'environ 100 mètres, est occupé majoritairement par des diplômés sans emploi. Je retrouve Daouda avec 50 pantalons qu'il va ensuite accrocher dans sa boutique de 2 mètres carrés. Il parle de comment ils utilisent l'argent des ventes.
Chaque jour, on met 25 000. On fait passer ça autour de l'autre. Une personne prend par jour. Là, demain, tu vas trier. C'est toi qui sais comment faire. Le lendemain, la même chose. On va faire le tour de rôle. Après, on recommence encore.
En Guinée, environ 60% des jeunes dont l'âge varie autour de 25 ans sont touchés par le chômage. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
En Afrique, les personnes handicapées ont longtemps été considérées comme des laissés pour compte, selon les organisations de défense des droits humains. Mais les choses sont en train de changer, d'après Judith Heumann, conseillère auprès du département d'État américain chargée des droits internationaux des handicapés. Le point avec Jacques Aristide.
Le continent africain compte au moins 80 millions d'handicapés, un chiffre de l'ONU qui estime que 15% de la population mondiale est touchée par un handicap, soit environ 1 milliard de personnes. Pour Judith Heumann, le scénario est pratiquement similaire aux quatre coins de la planète, car les personnes handicapées sont confrontées aux mêmes problèmes.
Frequently in countries in Africa and around the world.
En Afrique comme ailleurs dans le monde, nous constations que les personnes handicapées
sont fortement stigmatisés. Et je pense que la stigmatisation est l'une des causes importantes de la marginalisation de ces personnes. Si les décideurs estiment que les handicapés sont incapables de contribuer de manière significative à leur communauté, eh bien, ils ne chercheront pas à promouvoir des lois et programmes en faveur de ces personnes.
Mais l'espoir est permis, dit-elle. Certains pays africains ont fait des progrès. Exemple, le Kenya a récemment accueilli la première assemblée générale du Forum africain des personnes handicapées. L'Éthiopie, de son côté, affirme avoir rendu accessible aux handicapés son premier réseau de métro léger à Addis Abeba. La conseillère américaine demande aux gouvernements africains d'aller plus loin, notamment en accordant une attention particulière à l'embauche et la promotion des personnes handicapées qualifiées à des postes à responsabilité. Aux États-Unis, indique-t-elle, un décret du président Barack Obama datant de 2010 a eu un impact important sur le recrutement des handicapés au sein du gouvernement fédéral.
I think it's very important to...
Il faut être à l'écoute de la société civile par rapport à la stigmatisation et la marginalisation auxquelles sont confrontées les personnes handicapées. Les gouvernements ont un rôle clé à jouer, un rôle proactif en nommant ces personnes à de hautes fonctions. Les gouvernements doivent leur donner des opportunités.
La chargée des droits internationaux des handicapés est également d'avis que les gouvernements africains doivent investir davantage dans l'éducation, les services sociaux et les soins de santé, sans négliger l'environnement. Ces efforts, conclut Judith Heumann, ne touchent pas seulement les handicapés, mais bien tout le monde.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink. Can only mean one thing. I know when that hotline bling. That can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more.
Voilà, c'était Hotline Bling. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Présentation, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
On remercie notre ami Dryden à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Vos impressions, vos photos, vos questions sont les bienvenues. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.